RDL, entre nous, avec Jean-Marc Rachia.
Bonjour à tous et à toutes, c'est la dernière de la semaine, on est vendredi. Et entre nous va aborder aujourd'hui un sujet grave, profond, lourd, mais un sujet qui concerne tout le monde avec nos invités aujourd'hui. Nous accueillons Monique Latsou, bonjour Madame Latsou.
Bonjour.
Et nous accueillons également Nadine Bourgois, bonjour Madame Bourgois. Toutes les deux de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Alors c'est un sujet un peu lourd et grave, comme je le disais, mais on va essayer d'en parler le plus clairement possible. Ça concerne beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de réactions sur Facebook en particulier, où on a annoncé votre venue. On a eu aussi des questions par mail, on verra tout ça dans un instant. S'il fallait présenter très rapidement, Madame Latsou, votre association, qu'est-ce que vous diriez?
Alors l'association a été créée en 1980, et aujourd'hui on compte entre 65 et 70 000 adhérents en France, dont 1150 à peu près dans le département du Nord.
Oui, c'est une association nationale, il faut le préciser, et vous représentez la branche Nord-Pas-de-Calais.
Voilà.
Du Nord en particulier. Nord. D'accord, il y a aussi des branches dans un petit peu toutes les régions de France. Et vous êtes là pour répondre aujourd'hui aux questions des auditeurs, peut-être détruire certains tabous, battre certains fantasmes. En tout cas, on verra ça dans un instant avec vos questions 03 21 38 90 51. Vous connaissez bien le numéro de téléphone maintenant.
Midi 14h. Entre nous sur RDL.
Un sujet important aujourd'hui au sommaire d'entre nous, la fin de vie, l'euthanasie. Je ne sais pas si c'est un terme que vous acceptez, Madame Latsou. Oui.
Bien sûr.
Bon, la fin de vie, l'euthanasie, le choix de mourir, de partir dans la dignité. Vous êtes très nombreux à être, à vous sentir en tout cas concernés par le sujet, puisque avec nos invités aujourd'hui, Monique Latsou et Nadine Bourgois de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, on va devoir répondre à plusieurs questions et notamment ces réactions sur Facebook. On a Anjou, qui doit être un pseudonyme de Juan. Personnellement, si mon proche n'est plus autonome et qu'il me le demande, j'accepterai. Ce n'est pas une vie que de vivre en légumes non plus, que de devoir être assisté 24 heures sur 24. Christine nous dit, pour moi c'est pareil, impensable de vivre comme un légume, on devrait avoir notre propre décision sur cette question. Je vous vois opiner de la tête, mesdames, donc on est d'accord. Et puis Nanou nous dit, même si la douleur de perdre une personne est très difficile, de l'avoir en vie mais souffrir ou en totalité dépendante est aussi difficile. S'il n'y a plus rien à faire ou que cette personne souhaite s'en aller, il faut accepter son choix. Donc on a une sorte d'unanimité ici sur Facebook et dans les diverses réactions qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on en parle autour de nous, il y a quasiment tout le monde est d'accord, ou presque. Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent sur Madame Bourgois, peut-être?
Oui, les toutes dernières statistiques font état de 96% de Français qui sont favorables à une loi, une possibilité d'abréger la fin de sa vie.
96% oui. Sont favorables, c'est énorme.
Voilà. Oui, c'est énorme, c'est presque la totalité des Français.
Oui.
Alors, évidemment, les gens ne savent peut-être pas exactement ce qu'ils souhaitent précisément, sauf qu'ils sont bien le reflet des questions que vous venez de poser, c'est qu'on ne veut pas vivre dans la dépendance, on ne veut pas voir souffrir ses proches, et ça c'est vraiment constant.
Et du côté des parlementaires, parce que ce sont eux qui font les lois finalement, est-ce qu'on a aussi des statistiques aussi impressionnantes?
Alors, j'ai pas les chiffres de la dernière consultation qui avait été faite.
Mais bon, on est en ce moment en période d'élection législative. Oui. Le débat est sur la table et tout le monde a l'air un petit peu d'accord, à part peut-être quelques-uns.
Oui. Oui, l'Assemblée nationale, en avril dernier, a essayé d'aborder cette question, mais c'était dans le cadre d'une niche parlementaire. Donc, ils avaient quelques heures. Et ils ont montré aux Français que quasiment tous les courants politiques représentés à l'Assemblée étaient d'accord pour qu'au moins on ouvre le débat et qu'on légifère sur cette question.
Bon.
Donc les parlementaires sont prêts, au moins dans l'Assemblée qui termine son mandat, et on peut imaginer que la nouvelle Assemblée aura le même état d'esprit.
Donc ça coince encore pour l'instant, mais il y a de l'espoir pour que ça se débloque un petit peu dans les années à venir, on va dire.
Oui.
D'accord, très bien. Eh ben, on va continuer sur cette note d'optimisme. On va surtout continuer à répondre à vos questions et vos sollicitations. 03 21 38 90 51 pour le thème aujourd'hui du droit à mourir dans la...
Jusqu'à 14h, entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
Et aujourd'hui sur RDL, on parle de ce droit à mourir dans la dignité avec nos invités, Monique Latsou et Nadine Bourgois, qui réagissent à vos questions. Alors, on a une question par mail, cette fois-ci, de Céline, qui nous dit « Bonjour, mon mari est âgé de 34 ans, on lui a décelé une maladie neurodégénérative qui s'appelle la SLA, la sclérose. » Vous connaissez ça, Madame Latsou ?
La sclérose en plaques.
La sclérose en plaques, oui. La sclérose latérale amyotrophique. La neurologue nous informe sur la fin de vie de mon mari, s'il s'étouffe. Comment il veut être ranimé. Nous avons un petit garçon qui est âgé de 2 ans. Je ne sais pas comment lui dire que son papa va bientôt mourir. Il n'y a pas vraiment de question de la part de Céline, sinon un témoignage. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors, malgré tout,
ce qu'elle ne dit pas, c'est quelle est la volonté de son mari. Mm-hmm. Est-ce qu'il l'a exprimé? Est-ce qu'il lui a dit ce qu'il souhaitait aller jusqu'au bout? Ou s'il demanderait une aide médicale? Mais en tout cas, compte tenu de la gravité, en effet, de la maladie, ce qu'on peut dire, c'est que la demande du patient lui-même pourrait être reçu et entendu par un médecin belge.
Oui.
Mais pas en France.
Mais pas en France pour l'instant. Alors justement, on avait aussi une question de Patricia de Cassel qui avait entendu parler de l'euthanasie pratiquée en Belgique et elle se demande quelle différence il y a entre l'euthanasie pratiquée en Belgique et le suicide assisté pratiqué en Suisse. Qui peut répondre, Madame Latsou?
Oui. Alors l'euthanasie en Belgique, c'est un soin à part entière. Donc le médecin peut accéder à la demande d'un patient à domicile ou dans un hôpital et c'est pris en charge par le système de santé. Mmh. En Suisse, c'est tout à fait différent. La tolérance pour l'aide au suicide vient du code pénal qui dit qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui aurait aidé un proche à se suicider s'il n'y a pas de motif égoïste. Il y a donc une tolérance. Mmh. Et comme ça n'est pas un soin, que ça ne peut pas être un soin, il y a une sorte de relation triangulaire qui s'établit entre le demandeur, un médecin qui va, sur des critères médicaux quand même, accepter la demande et procurer le produit létal à une association, à un accompagnateur d'une association qui sera... qui va accompagner le demandeur dans son suicide.
Et quel modèle du Belge ou du Suisse se rapproche le plus de ce que vous souhaitez en tant qu'association pour la France?
Alors nous, moi personnellement, je pense Nadine aussi, la plupart des adhérents de la DMD préféreraient le modèle belge. Mmh, je pense qu'il est plus dans notre culture française et que c'est ce qu'on attend.
D'accord. Vous restez avec nous, bien sûr. On en parle jusqu'à 13h. Le suicide assisté, l'euthanasie, la fin de vie dans la dignité. C'est notre thème aujourd'hui dans Entre nous.
Jusqu'à 14h. Entre nous, avec Jean-Marc Rachia sur RDL.
On parle du droit à mourir dans la dignité aujourd'hui avec nos invités, Monique Latsou et Nadine Bourgois, qui viennent en parler avec un grand sourire. Elles chantent pendant les pauses musicales. Mais voilà, vous êtes le symbole de la vie, mesdames. Vous aimez la vie, vous luttez contre la mort et la déchéance. Et c'est important de le dire aussi. On a une question de Pascal de Waplage. Pascal au masculin. La personne malade doit être parfaitement consciente pour demander à mourir ou pour qu'on arrête les soins. Que se passe-t-il si elle est dans le coma? Alors, qui répond, Madame Bourgois?
Alors, effectivement, la personne qui va profiter d'une euthanasie ne sera pas forcément consciente. Mais il faudra, pour qu'elle puisse en profiter, qu'elle ait rédigé auparavant ses directives anticipées. C'est-à-dire qu'elle ait mis sur papier et qu'elle ait fait connaître à ses proches son souhait de tout ce qu'elle ne souhaite pas subir à sa fin de vie et qu'elle les dise, qu'elle les exprime précisément, qu'elle exprime dans quelles conditions elle ne veut pas terminer sa vie, c'est-à-dire si on doit l'assister au point de vue respiratoire en permanence, si elle est obligée d'être nourrie par sonde, si elle souffre, évidemment. Donc voilà, et il faut qu'elle l'ait exprimé par écrit auparavant. C'est ce qu'on appelle les directives anticipées.
Alors c'est marrant parce qu'on a une réaction au Facebook de Véronique qui nous dit « Respect de la personne, j'ai moi-même fait le nécessaire avec un dossier directive assistée, donc ce que vous venez de citer, pour qu'on me laisse partir dignement. »
Voilà, donc c'est très important. Et il faut savoir que seuls 18% des Français les ont rédigés. Hein, je dis bien rédigés, c'est de l'écrit. Et donc, il aurait un effort à faire. Hein. Quand on est 96% à souhaiter mourir dignement, il faudrait que ces 96% de personnes aient rédigé leur directive anticipée.
Et alors, ça passe comment ? C'est un document officiel ou c'est une simple...
Il existe un document officiel qui est présenté par le ministère de la Santé, qu'on trouve sur Internet. Notre association fournit également un document qu'il faut remplir. Et ce qui doit toujours être ajouté aux directives anticipées, c'est la liste... Une liste de 1 à 3 personnes, de personnes de confiance, c'est-à-dire celles qui seront chargées de nous représenter si effectivement on perd la conscience de son état.
C'est pas forcément les enfants ou le conjoint, ça
non.
peut être...
Ça peut être le médecin, ça peut être des amis, une personne proche.
D'accord.
Et qui comprennent bien la situation.
D'accord, ben c'est promis, moi je ne l'ai pas fait, mais c'est promis, je vais m'y attacher. J'ai fait ma déclaration sur les dons d'organes, parce que ça c'est un peu plus connu, mais j'ignorais qu'on pouvait aussi faire cette directive anticipée dans le cas où on ne voudrait pas subir une situation. Vous restez avec nous, on continue d'accueillir les questions de nos auditeurs au 03 21 38 90 51.
Midi 14h, entre nous sur RDL.
C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, ça nous fait plaisir, parce qu'on l'avait imaginé depuis quelques temps déjà. Et on est heureux de voir l'accueil que ça reçoit. On parle de ce droit à mourir dans la dignité, un sujet sur lequel tout le monde est d'accord. On l'a vu tout à l'heure, 96% des Français, j'en reviens pas de ce chiffre, est plutôt pour qu'il y ait un cadre juridique pour accompagner la fin de vie de ces personnes qui sont dans la détresse. Mais bon, on n'a pas exactement les informations, le détail de ce qu'il faudrait faire. Alors par exemple, Marie-Claude de Saint-Martin-les-Tatinghem nous dit que je pensais que la loi Leonetti qui empêche l'acharnement thérapeutique était suffisante. Donc il faut d'abord rappeler ce que cette loi Leonetti qui est applicable aujourd'hui en France.
Oui, depuis 2016, la loi Leonetti permet ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. Mais clairement, pour nous, elle est largement insuffisante et même un peu hypocrite.
C'est-à-dire qu'on ne met pas fin à la vie, on endort, on plonge dans le coma la personne.
On va sédater, mais on va surtout cesser d'alimenter et d'hydrater le corps. Et donc...
C'est affreux, c'est horrible.
C'est déjà plutôt barbare.
Bah oui.
On pense que laisser un corps se dégrader comme ça, sans hydratation, c'est complètement barbare. Mais surtout, si encore ça peut être une solution dans certains cas, ça ne concerne que les gens en fin de vie, les malades en fin de vie. Une personne atteinte de sclérose en plaques ou de maladie de Charcot, complètement dépendante, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, ne peut pas bénéficier de la sédation profonde et continue. Donc cette loi laisse beaucoup de gens sur le côté, et en plus elle est barbare. Donc elle est largement... Elle nous déplaît profondément.
Oui, il faut aller plus loin.
Il faut aller plus loin.
Et aller, comme en Belgique, on le disait tout à l'heure, vers un système qui permette d'être beaucoup moins hypocrite, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie aussi, en France d'ailleurs, à ce sujet.
Il y a complètement une posture hypocrite qui refuse d'aborder le sujet frontalement.
Parce qu'on peut le dire, en France aujourd'hui, il y a certains médecins qui malgré tout font des choses qui sont en marge de la loi, on va dire. Vous êtes au courant de ce genre de situation, mais c'est hypocrite, ça met les médecins dans des situations un peu inconfortables.
Des médecins prennent des risques.
Oui, oui.
D'autres le font, je pense, dans un cadre hospitalier, en toute fin de vie du patient, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui s'orientent vers la Belgique ou la Suisse.
D'accord. On verra dans un instant comment est-ce que vous, en tant qu'association, vous pouvez intervenir auprès des personnes qui s'adressent à vous. Quel est votre rôle exact? Quelles aides vous pouvez apporter? Parce que, ben, mine de rien, on se dirige tout doucement vers la dernière intervention de cet Entre nous consacré au droit à mourir dans la dignité.
Midi 14h, Entre nous sur RDL.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission Entre nous aujourd'hui consacrée à l'association pour le droit à mourir dans la dignité avec nos invités Monique Latsou et Nadine Bourgois. Une question très concrète de Jean-Pierre de Boulogne-sur-Mer, mesdames, qui nous dit: ma mère est en fin de vie, elle souffre, elle n'en peut plus, elle me demande de l'aide, on comprend pourquoi. Quelle est, vous, la nature de votre intervention? Si vous deviez accueillir Jean-Pierre de Boulogne, comment ça se passerait très très concrètement? Qui peut répondre? Madame Bourgois.
Oui. Écoutez, notre association travaille en France avec les moyens qu'elle a légaux, c'est-à-dire que on peut accompagner les gens dans leurs démarches et dans leurs difficultés en hôpital, face au corps médical, pour faire valoir leurs droits, pour les assister, leurs personnes de confiance, quand, bon, c'est toujours des moments de détresse, un peu compliqués. Donc, si on est appelé, on peut intervenir dans ce sens.
Vous écoutez beaucoup, j'imagine?
Alors, nous écoutons et puis nous pouvons intervenir, faire appliquer ce qui existe quand même déjà en France. Oui. C'est pas toujours évident de faire valoir le non-acharnement, des choses comme ça. Et en deuxième point, alors on assiste aussi certaines personnes qui nous demandent comment aller en Belgique ou comment aller en Suisse. Donc des gens qui sont en situation de détresse et qui cherchent à l'étranger leur solution.
Donc, dans ce cas-là, vous les aidez aussi, bien sûr.
On les aide, mais d'une façon un peu plus lointaine, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas les gens physiquement, non, sauf exception, mais la plupart du temps, on essaie de trouver des solutions, on leur donne les adresses, on leur donne des coordonnées de médecins, les coordonnées des centres de fin de vie en Belgique et des noms éventuellement d'associations.
Alors pour Jean-Pierre et pour tous ceux qui nous ont écoutés et qui sont intéressés par le sujet, comment faire si on veut en savoir plus, si on veut entrer en contact avec vous, mesdames?
Alors déjà, vous avez la possibilité d'aller très prochainement à une réunion qui est organisée par le siège national, oui, de l'association à Arras le 18 mai à 18h à l'hôtel Mercure, qui est boulevard Carnot, d'accord, à Arras, près de, d'accord, la gare. Donc là, il y aura quelqu'un qui va essayer de voir si dans le Pas-de-Calais, puisque dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas de délégation encore, s'il peut se créer une délégation.
Sinon, votre délégation est à Lille, mais on peut quand même essayer de vous joindre et de vous contacter. Même là-dessous, il y a un site internet, j'imagine?
Oui, le site internet est national, admd.net, c'est facile à trouver.
admd.net.
Il y a énormément d'informations dessus. Nous avons une adresse mail, on peut nous contacter. On reçoit une centaine d'appels par an.
D'accord.
Donc on peut nous appeler, nous envoyer un mail sur l'adresse admd.mail.59@laposte.net.
D'accord.
Et Nadine va vous donner le téléphone.
Alors le téléphone, c'est le 06 07 65 69 18. Et notre adresse postale, si vous souhaitez nous écrire, c'est à la MRES, M-R-E-S, Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, au numéro 5, rue Jules de Vic, 59 000, Lille.
Très bien, on n'a plus le temps, et je suis désolé, on va arriver à l'heure du journal de 13h. Merci beaucoup, on aurait pu dire encore beaucoup de choses sur ce sujet passionnant. Merci Monique Latsou, merci Nadine Bourgois de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité.
Merci à vous.
Au revoir.
À bientôt. Merci. Au revoir.